Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Eurodéputé, place publique, essayiste également. Avec la COP26 qui s'ouvre aujourd'hui, on voit une jeunesse qui, une génération climat, qui veut prendre la parole, qui veut avoir un autre discours que celui que vont tenir les politiques, et avec plus d'ambition dans cette jeune génération. Ce sont souvent des jeunes femmes d'ailleurs. Quel regard vous portez sur cette génération climat qui ne veut pas se résigner?
Qui ne veut pas se résigner et qui veut sortir de l'impuissance des dirigeants européens, occidentaux et mondiaux. Et en fait, à la lumière de l'effondrement climatique, on assiste à une formidable inversion des rôles. C'est-à-dire que dans nos sociétés, les gens qui sont censés être sérieux, ce sont les hommes en costume-cravate, qui négocient des accords de libre-échange et qui travaillent dans les plus hautes sphères de nos États. Et ceux qui sont censés ne pas être sérieux, ce sont les jeunes de 20 ans qui ont la vie devant eux et qui pensent à s'amuser. Eh bien, face à l'effondrement climatique, on a une inversion totale des rôles dans la société. Finalement, celui qui apparaît comme comique, c'est-à-dire ne prenant pas en compte la réalité de la tragédie qui nous attend et que nous avons commencé à vivre, ce sont les hommes en costume-cravate qui négocient des accords de libre-échange comme si de rien n'était. Et ceux qui sont réellement sérieux, ceux qui épousent le tragique de l'époque, ce sont ceux qui sont censés ne pas être sérieux dans nos sociétés, c'est-à-dire les jeunes de 15, de 20 ans, de 25 ans, qui alertent sur le péril et qui disent qu'ils ne veulent pas vivre dans cet enfer.
Et ce sont souvent des jeunes femmes. La première, ça a été Greta Thunberg. Elle a été rejointe par l'Australienne Harriet Hosheker, l'Ougandaise Vanessa Nakat. Elles seront dans la rue, donc, à Glasgow, dans la rue, mais pas dans les urnes. Est-ce que vous comprenez leur désenchantement face au système électif, aux élections?
Bien sûr, ce désenchantement, c'est tout ce que j'explore dans mon livre. Moi, je m'insurge contre l'idée que la jeunesse n'est pas engagée, qu'elle est apathique, qu'elle est narcissique, qu'elle est individualiste, qu'elle a les yeux rivés sur ses écrans.
Vous avez écrit un livre au début, il y a un mois là-dessus.
Oui, tout ce qu'on entend en permanence, en fait, chez les éditorialistes, autour de la table familiale. Et qui ne reflète absolument pas la réalité. Cette jeunesse, elle est engagée. Moi, j'ai vu et j'ai combattu avec ces jeunes sur les questions climatiques, mais aussi sur des questions qui semblaient connexes à l'ensemble du monde politique et médiatique, comme la libération des Ouïghours qui sont parqués dans des camps en Chine. Des centaines de milliers de jeunes
engagés,
Français se sont mobilisés.
Engagés, mais pas politisés. Donc, qu'est-ce qui colle pas, en fait, entre la jeunesse et la politique?
Donc, il y a cet engagement. Il y a ce désir d'investir la scène publique, le débat public. Il y a la mobilisation autour de causes, mais il n'y a pas l'engagement dans les partis politiques ou dans la sphère politique institutionnelle, parce que cette sphère politique institutionnelle ne raconte rien qui puisse parler à cette jeunesse.
On parlait à l'instant. Donc les partis doivent changer. Qu'est-ce qui doit changer, les partis?
Les partis doivent changer. La méthode doit changer. La manière de faire de la politique doit changer. Bien sûr, on ne retournera plus à la figure du militant, qui est une figure noble et qui allait distribuer des tracts et distribuer la bonne parole à la sortie des marchés à 8h du matin un dimanche. On ne retrouvera plus cette figure-là. Les jeunes aujourd'hui, quand ils agissent pour une cause, ils veulent être acteurs. Et ce qui a fait le succès de nos mobilisations, par exemple, c'est qu'ils avaient chacun un rôle d'acteur et qu'ils se sont rendu compte quand ils interpellaient, par exemple, les multinationales qui bénéficiaient de la mise en esclavage d'un peuple sur leur chaîne de production, des multinationales comme Zara, comme Nike, qui s'enrichissent grâce à la mise en esclavage de populations entières à l'autre bout du monde, en Chine, eh bien, ils avaient un rôle, ils interpellaient ces marques en leur nom propre. Et c'est ça qui les a mobilisés par centaines de milliers, et c'est surtout ça qui leur a permis d'obtenir des victoires. Donc en fait, il faut changer la manière dont on fait de la politique, il faut les considérer comme des acteurs et pas simplement des récepteurs ou les redistributeurs d'un message pondu par le leader Maximo, et là on les réintéressera à la chose politique.
Mais il faut dire la jeunesse, ou est-ce que vous avez quand même le sentiment que la jeunesse de droite, elle est plus politisée aujourd'hui que la jeunesse de gauche, qui effectivement n'est pas organisée politiquement?
Parce que à droite, il y a un récit aujourd'hui. Parce que à droite, il y a un récit de transformation du monde. Parce que à droite, il y a une idéologie. Parce que l'extrême droite est en train de mobiliser sur un récit d'essence révolutionnaire, en réalité. Une mise à bas du système. Et que donc, quand on est en colère et quand on est révolté par l'idée du statu quo, eh bien, à droite, on trouve un débouché naturel, qui est celui du discours zémourien, par exemple.
On avait compris.
Alors que, à gauche, eh bien, ce récit-là n'arrive pas à se formuler. Il n'y a pas de représentation. Moi, tous les jeunes que je rencontre, lorsque on organise les conférences autour du livre, et par centaines, ils disent tous la même chose. Ils disent, mais personne ne nous représente. Et pourtant, cette jeunesse humaniste-là, qui s'oppose à la jeunesse zémourisée, eh bien, elle existe. Elle est ultra vivante. Mais... et même dominante, à mon avis. Simplement, elle n'a pas de représentation politique. Elle n'a pas de récit politique auquel adhérer. Et ça, c'est la responsabilité immense de la gauche française.
La gauche qui a oublié son storytelling, qui n'arrive plus à faire un récit. Qu'est-ce que vous faites de différent, vous, avec Place Publique, pour justement incarner ce renouveau que vous souhaitez dans les partis politiques?
Ben déjà, on essaye de se mobiliser autour de causes. À mon avis, c'est essentiel, que ce soit sur le climat ou sur la responsabilité des entreprises ou sur la défense de populations qui sont menacées à l'autre bout de la planète ou sur la question des exilés. On voit aujourd'hui le drame de la grève de la faim à Calais, d'un père jésuite de 72 ans, le père Philippe Démestère. Eh bien, on essaye de se mobiliser autour de causes et ces causes-là génère un enthousiasme dans la société. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé la solution, que nous avons trouvé la solution,
pour qu'en
masse, ils adhèrent à un parti politique.
Mais et
ça doit nous interroger.
Oui,
bien sûr,
et
ça doit nous interroger tous. Et moi, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand on sort le laïus habituel sur « il faut que la gauche soit rassemblée », moi, c'est mon discours, et j'en suis absolument convaincu. Mais le rassemblement ne suffira pas. Il faut un nouveau récit et des nouvelles méthodes, des nouvelles incarnations. Vous savez, quand le drame des partis politiques aujourd'hui, et en particulier à gauche, c'est qu'en fait, sociologiquement, ils sont extrêmement restreints, c'est atrophié. Je veux dire, quand vous allez à un meeting de parti politique, eh bien, il y a finalement une classe sociale extrêmement limitée, il y a très peu de jeunes, encore moins de jeunes des quartiers populaires, et finalement, cette atrophie-là, elle condamne la gauche à l'échec. Je veux dire, on n'arrivera pas à reprendre le pouvoir pour transformer la société s'il n'y a pas une mobilisation dans les classes sociales qu'on cherche à aider.
Raphaël Glucksmann, je voulais regarder sur Instagram. Vous avez 660 000 abonnés quand Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, n'en a que 3 000. Vous avez donc 200 fois plus d'abonnés sur Instagram que le parti historique de la gauche. On parlait du fond de ce parti qui a oublié dans le fond de faire un nouveau récit. Dans la forme aussi, il est le Parti Socialiste complètement hors des clous.
Bah, comme tous les partis politiques, voilà, vous avez cité le Parti Socialiste, je pense que les autres partis politiques principaux et même des candidats à la présidentielle n'ont pas beaucoup plus d'abonnés et de jeunes parmi leurs abonnés. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait c'est la manière de faire qui change. Moi je pense pas que les gens viennent parce qu'ils m'aiment moi, je pense qu'ils viennent parce qu'ils adhèrent au combat que je mène et à la manière que j'aide les présenter. Par exemple, si vous parlez d'Instagram, c'est un réseau d'images. C'est un réseau de couchers de soleil et de selfies. Et en réalité, sur mon compte Instagram, on présente très peu d'images. C'est surtout du texte extrêmement dur, extrêmement en rupture avec ce réseau-là. Et je crois que ça génère une adhésion. Et en fait, pourquoi? Parce que dans nos campagnes, encore une fois, on demande aux gens d'être acteurs, d'être acteurs de leur combat politique et pas simplement récepteurs du discours.
Sur ce sujet de convaincre la jeunesse, vous avez écrit un livre, « Lettre à une génération qui veut tout changer ». Vous écrivez dans ce livre qu'il suffit de le vouloir pour changer la vie. Enfin, honnêtement, est-ce que c'est pas un peu court pour convaincre une jeunesse?
J'ai écrit 300 pages.
Je
ne m'assimile pas à cette phrase. Non, ce que je dis juste, c'est qu'il suffit d'exercer son pouvoir, que chacun d'entre nous, on a du pouvoir, et que si on l'exerce, on se rend compte que ça peut marcher. Moi, ce que je veux, c'est sortir de ce fatalisme ambiant qui consiste à placer et les jeunes et l'ensemble de la population française dans une position de spectateur du désastre. Désastre écologique, désastre social, désastre politique avec la montée des régimes autoritaires et l'affirmation du nationalisme partout en Europe. Et on n'est pas spectateur face à ce désastre. On a les moyens d'agir et on l'a montré. Franchement, qui aurait misé une seconde sur notre capacité à renvoyer dans les poubelles de l'histoire un accord mirifique d'investissement entre l'Union européenne et la Chine qui avait été signé par Angela Merkel et Emmanuel Macron et Xi Jinping? Qui aurait misé une seconde sur le fait que la présidente de la Commission européenne allait annoncer devant le Parlement européen le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés? Qui aurait misé une seconde sur le fait que des mastodontes comme Adidas allaient changer leur chaîne de production sous la pression de jeunes internautes français? Et bien tout cela, ce sont ces jeunes qui l'ont fait, et des jeunes qui se percevaient parfois comme étant sans pouvoir. Mais je vous jure, quand vous leur parlez, vous vous rendez compte à quel point ce sentiment de découvrir qu'en fait on a du pouvoir procure une joie intérieure. Parce que ce fatalisme ambiant, il nous conduit à la dépression, à la sinistrose, à la morosité. Vous êtes face au monde comme face à quelque chose qui vous tombe dessus. Et bien non, vous pouvez agir.
Raphaël Glucksmann, expliquez-nous quel est le rôle de Place Publique, votre mouvement, aujourd'hui au sein du Parti Socialiste?
Déjà, on n'est pas au sein du Parti Socialiste, on est un mouvement complètement autonome. Et notre rôle au sein de la gauche et des écologistes, piste, c'est de pousser d'abord au rassemblement. C'est pour ça que nous, on n'a choisi aucun candidat à l'heure actuelle, parce que on considère qu'en fait, il s'agit d'une forme de pré-campagne, et que si on va jusqu'au bout avec un émiettement pareil, la gauche n'a aucune chance de remporter ces élections, ce qui veut dire qu'elle tire un trait sur l'ensemble de ses discours sur l'urgence en fait de transformer la société. Et notre autre rôle, c'est d'introduire un nouveau discours en politique. Enfin, nous, quand on a fait là nos états généraux à Marseille, nos états généraux, d'ailleurs, on les avait appelés, c'est une sorte d'université d'automne. Mmh. Eh bien, les gens qui viennent parler, c'est qui? C'est Stéphane Ravaclet, boulanger à Besançon, qui a lancé une grève de la faim pour défendre son apprenti Laï Traoré, et qui a généré dans la France entière un mouvement d'enthousiasme et de solidarité vis-à-vis des exilés, alors même que tous les discours de gauche sur les réfugiés, sur la manière dont on traite les migrants en France et tout ça, tombaient dans l'oreille de sourds et que personne ne voulait les écouter. Ce sont des sages-femmes, ce sont des acteurs de
Mais
la solidarité. Donc c'est finalement introduire un nouveau rapport à la politique et sortir des codes qui, franchement, dégoûte la France entière.
Mais sortons des codes. Ça veut dire que vous discutez en ce moment avec tout le monde. Vous discutez avec Anne Hidalgo, qui a été donc désignée candidate.
Avec Anne Hidalgo, avec Yannick Jadot, avec l'ensemble des mouvements politiques pour essayer de sortir de cette ornière et d'arriver à une candidature commune. Mais la candidature commune, elle suffira pas. Je vous le dis tout de suite. C'est la condition de possibilité d'une alternative crédible.
Elle suffira pas pour gagner.
Elle suffira pas pour gagner. Parce qu'en fait, quand vous additionnez toutes les chapelles de gauche aujourd'hui, ça fait pas une victoire.
Mais donc, ça permet de franchir le cap du premier tour.
Ça fait de l'accession au second tour.
Ça permet de devenir crédible et audible. Aujourd'hui, l'émiettement rend inaudible et non crédible. Mais si vous voulez l'emporter, il faut créer un enthousiasme dans la société. Il faut que tous ces jeunes qui ne s'investissent pas dans les partis politiques animent la campagne électorale. Et sans cela, eh bien, ça ne marchera pas. Vous savez, je suis pas convaincu que les grands oligarques qui ont permis l'élection d'Emmanuel Macron se mettent en rang serré derrière un candidat qui propose d'augmenter l'impôt sur la fortune. Donc finalement, la seule chance de la gauche de l'emporter, c'est s'il y a un mouvement d'enthousiasme dans la société. Et ce mouvement d'enthousiasme dans la société, eh bien, il n'existe pas aujourd'hui et il va falloir le créer au-delà du rassemblement. Mais
donc notre vous parlez de jouer un rôle fédérateur.
Fédérateur et une sorte d'aiguillon aussi.
Vous avez envie de jouer un rôle un peu plus que ça ou pas? Vous avez envie d'aller un peu au-delà, de simplement jouer le rôle d'animateur et de fédérateur?
Non, mais je suis pas une marieuse d'un ghetto juif en Pologne.
Donc, non, c'était pas non plus ce que je voulais dire.
Ça va pas être mon seul rôle. Mais moi, ce que je voudrais, c'est justement porter des causes qui vont animer cette campagne. Et ce que je ne veux pas, évidemment, c'est être le 26e candidat de la gauche à ces élections. Enfin, ça, j'ai déjà fait une fois aux élections européennes de me retrouver sur un plateau où, en gros, on a un débat entre 5 candidats ou 5 listes qui disent il faut une Europe plus démocratique, plus sociale et plus écologique. Non, vous avez tort. Il faut une Europe plus écologique, plus sociale et plus démocratique. Non, vous avez tort. Il faut une Europe plus sociale, plus démocratique et plus écologique. Et tout ça est profondément pathétique, ridicule. Et donc, nous, ce qu'on va essayer, c'est de sortir de ce pathétique pour pousser à une offre commune. Mais cette offre commune, moi, je veux insister sur une chose. Je pense pas que la gauche soit divisée parce qu'elle est, que la gauche est faible parce qu'elle est divisée. Je pense qu'elle est divisée parce qu'elle n'a plus de récit de transformation de la société évident. Or, ce récit, il est à portée de main. C'est la transformation écologique. Mmh. C'est la transformation écologique et sociale. Et cela, ce récit à portée de main, eh bien, c'est ce qui n'arrive pas à devenir une épopée. Or, la France, aujourd'hui, a besoin d'épopée. Et si jamais nous ne présentons pas cette épopée, eh bien, ce sera l'extrême droite qui assumera le rôle épique.
Allez, quelques minutes pour parler de l'Europe aussi. Ce sera le 1er janvier prochain. La France va prendre la présidence de l'Union. Et ce n'est pas si fréquent. Emmanuel Macron veut en profiter pour calmer les ardeurs de ces pays à l'Est, et notamment la Pologne, qui veulent donner une priorité au droit national. Est-ce qu'on est rentré dans un bras de fer qui risque de faire tache d'huile?
C'est plutôt l'absence de bras de fer qui fait tache d'huile. C'est-à-dire qu'on a laissé pendant bien trop longtemps Viktor Orban, en Hongrie par exemple, s'asseoir sur les principes même de la construction européenne, s'asseoir sur l'état de droit, et que donc notre inaction en tant qu'Union européenne a créer cette tache d'huile, et que si on n'agit pas maintenant face à la Hongrie ou face à la Pologne, eh bien ça va se répandre absolument partout.
Agir, ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire tout simplement conditionner, c'est la seule manière
les
de faire.
Les aides économiques?
Conditionner les aides, conditionner, bien sûr. Conditionner les aides au respect des principes fondamentaux de l'état de droit et de l'indépendance de la justice. Il ne s'agit pas de dicter aux pays les politiques qu'ils doivent mener. Il s'agit simplement de dire que nous sommes un espace commun et que dans cet espace commun, il y a des principes à respecter, des principes de base. Et finalement, le fait que nous n'arrivions pas à le faire, le fait que nous soyons si faibles et que des dirigeants au sein même de l'Union européenne considèrent nos principes comme des paillassons sur lesquels ils s'essuient les pieds, c'est ce qui nous rend faibles à l'intérieur et c'est ce qui nous rend faibles aussi vis-à-vis du monde. Je veux dire, c'est la même impuissance en fait qui génère la dégénérescence intérieure et la faiblesse extérieure. Et sortir de cette impuissance, c'est la condition de possibilité d'une Europe forte.
Cela dit, c'est une question de curseur. Juste entre la réindustrialisation nationale que souhaitent tous les pays et puis relancer la puissance européenne, vous êtes de quel côté du curseur, vous ?
Mais ce qu'il faut, c'est, si on veut réindustrialiser, si on veut faire en sorte de redevenir un continent de producteurs, il va falloir le faire à l'échelle européenne. Il faut des taxes aux frontières de l'Union européenne. Il faut un Buy European Act qui réserve les marchés publics aux entreprises qui produisent en Europe. Il faut un Made in European Act qui fasse émerger des champions européens dans les énergies renouvelables et les technologies. Et ça, c'est des mesures extrêmement concrètes qui vont prouver aux gens que l'Europe peut protéger, que l'Europe peut changer les choses.
Gros dossier très concret également. La France doit régler un différend important avec les Anglais. Mmh. Emmanuel Macron doit rencontrer justement Boris Johnson aujourd'hui à Londres, en marge du G20. Sur le nombre donc de pêcheurs français en droit de travailler dans les eaux britanniques, conformément normalement à l'accord du Brexit, sauf que le Royaume-Uni a décidé d'en accorder beaucoup moins des licences de pêche, beaucoup moins de prévu, de l'ordre d'une centaine de moins. Comment on règle ce problème-là ? Qu'on fait ?
Moi, vous savez, je suis pas du tout dans une opposition pavlovienne. Quand Emmanuel Macron décide de se confronter à Boris Johnson pour l'obliger à respecter ses paroles, je dis qu'il a raison. Et donc là, oui, il y a la nécessité d'établir une forme de bras de fer. Il s'agit pas de lancer une guerre commerciale contre le Royaume-Uni.
On n'en est pas loin, là, quand même.
Mais il s'agit de montrer que nous sommes sérieux. C'est la même question tout le temps. Enfin, il faut arrêter d'être un continent de bisounours quand on traite avec les Américains, quand on traite avec la Chine ou maintenant quand on traite avec Boris Johnson.
Mais pourquoi aucun autre pays de l'Union vient soutenir la France sur ce dossier-là? On est un peu isolé, on est un peu tout seul.
C'est le grand problème, c'est qu'il faut créer une solidarité européenne. C'est la même chose sur l'AUKUS et sur la fin du contrat des sous-marins avec l'Australie. Il y a un problème de déficit de solidarité européenne, mais là-dessus, Emmanuel Macron a raison, il faut adopter une position ferme. J'ai vu que l'Irlande soutenait et qu'il faut que ça se répande à l'échelle européenne. Et le rôle de la France, puisqu'on parlait de la présidence française de l'Union européenne à venir, c'est de montrer aux autres Européens que nous pouvons avoir une politique de puissance, que nous pouvons être fermes. Nous sommes le premier marché du monde. Si nous décidons d'imposer des normes à la globalisation, eh bien, aucune multinationale, aucun pays producteur ne pourra s'affranchir de ces normes parce que tout le monde a besoin du marché européen. Nous avons en nous les instruments de la puissance et il ne manque que la volonté politique de les utiliser.
Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique, était ce matin notre invité. Merci et bonne journée.